Voici les deux textes liturgiques de ce jeudi de l'Ascension. L'épître est tirée des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai raconté dans mon premier livre toute la suite des actions et des enseignements de Jésus jusqu'au jour où, après avoir donné par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut élevé au ciel. À eux aussi, après sa passion, il s'était montré plein de vie, leur en donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours et les entretenant du royaume de Dieu. Un jour qu'il était à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que, leur dit-il, vous avez appris de ma bouche, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Eux donc, étant réunis, lui demandèrent, « Seigneur, le temps est-il venu où vous rétablirez le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé en leur présence et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leurs regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient, voici que deux hommes parurent auprès d'eux vêtus de blanc et dirent, homme de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui de milieu de vous a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se montra aux 11 eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, de n'avoir pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Après les avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Pour eux étant partis, ils prêchèrent en tout lieu, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Veuillez vous asseoir. Donc demain, vendredi, messe à 8h, samedi, messe à 10h, dimanche prochain, messe à 10h comme tous les dimanches. Mercredi prochain, cours sur les actes du magistère, comme tous les mercredis quand je suis libre, à 19h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, cette fête de l'Ascension a une importance évidemment toute particulière dans l'Église. Pour comprendre l'importance de l'Ascension, il faut associer trois mots. C'est tout simple. Ascension, espérance, prière. Trois choses vont ensemble. Trois choses vont ensemble parce que la vertu particulière qui est connectée à la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, c'est la vertu d'espérance. J'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce qu'étant Dieu, vous l'avez promis, et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Les apôtres regardent notre Seigneur Jésus-Christ, qui monte au ciel, et les anges vont venir, et vont annoncer à notre Seigneur Jésus-Christ, il va revenir, comme il est monté. Donc, espérez en ce Dieu qui est monté au ciel, mais qui ne vous abandonne pas. Il va vous envoyer le Saint-Esprit. La vertu d'espérance, mes bien chers frères, ça c'est fondamental à comprendre, est la vertu théologale, centrée sur Dieu, qui a pour but de nous faire prier. La foi, pour croire, l'espérance, pour prier, la charité, pour suivre les commandements de Dieu. Et donc, il y a une connexion étroite entre l'espérance et la vie de prière. Est-ce qu'on peut prier sans espérer ? C'est impossible. Est-ce que vous pouvez prier Dieu sans espérer qu'il vous écoute? Impossible. Est-ce qu'on peut prier Dieu sans croire que Dieu existe et qu'il est au ciel maître du ciel et de la terre? C'est impossible. Est-ce qu'il est possible d'avoir la charité sans l'espérance et la foi? Non. Il faut l'espérance et la foi pour supporter la charité. Est-ce qu'on peut avoir l'espérance et la charité sans la foi sans la charité? Oui. Vous pouvez avoir même que la foi sans l'espérance, mais la foi normalement guide vers l'espérance. Bon, attention, il faut bien comprendre un certain nombre de choses. L'espérance, mes bien chers frères, va nous donner la grâce. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. La grâce, c'est quoi? La grâce sanctifiante, c'est l'habitation à nous de la Sainte Trinité. La grâce sanctifiante, c'est la charité. Mais on voit très bien la définition même de l'espérance, qui est une connexion étroite entre l'espérance et la charité. L'espérance mène à la charité. J'espère que vous donnerez votre grâce en ce monde. Donc pour espérer la grâce du bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la charité. J'ai dit l'espérance sans la charité, est-ce que je garde l'espérance? Oui, mais c'est une espérance informe, dit saint Thomas d'Aquin. Informe, c'est-à-dire c'est comme une grande branche morte, si vous voulez, qui est sur l'arbre, mais il n'y a plus de moyen pour la sève de monter dans la branche. La branche se dessèche. Et si on reste trop longtemps dans cette situation-là, la branche va tomber au moins de coup de vent. Mais ce sont des choses essentielles à comprendre. Donc, le but de l'espérance, c'est de nous amener à la grâce, nous amener à la charité. C'est pour ça qu'il faut une connexion entre l'espérance et la charité. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Le but, c'est le ciel. Le ciel est premier dans l'intention, dernier dans l'exécution. On vise le ciel. Mais pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Condition? Remplir les commandements. Obéir aux commandements du bon Dieu. Quelle est la vertu qui nous permet d'obéir aux commandements du bon Dieu? La vertu qui nous permet d'obéir aux commandements de Dieu, c'est la charité. Et la connexion entre les trois, foi, espérance, charité. Et aujourd'hui, dans cette fête de l'Ascension, c'est vraiment la vertu d'espérance qu'il nous faut demander. C'est certainement, peut-être aujourd'hui, la vertu dont on a le plus besoin. Si on regarde les choses, l'état du monde actuel avec un regard purement humain, il n'y a plus rien à faire. Tout est perdu. Et donc il faut la vertu d'espérance justement pour nous obliger à monter les yeux vers le ciel et garder notre regard vers le ciel, là où on doit aller. Même si les choses vont de mal en pis ici-bas parce que justement on se moque du bon Dieu. Le monde autour de nous se moque de Dieu. Alors, on peut prendre certains exemples que les pères aiment prendre pour nous aider à comprendre ces choses-là. Ce lien entre la foi, l'espérance et la charité. Un bel exemple qu'on peut prendre qui est tout simple, c'est l'exemple d'une fleur. Imaginez que vous avez une belle rose dans votre jardin. Pour que la rose pousse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une tige pour supporter la rose. Il n'y a jamais une rose qui pousse directement sur le sol. Il y a une tige. Pourquoi la tige? La tige va élever la rose. Pour qu'on puisse la voir, l'admirer. Pour qu'on puisse la sentir. Parce que si la rose est placée directement sur le sol, les insectes vont la manger. Donc il y a la rose, la tige, et la tige elle va pas pousser toute seule, il faut des racines. Il faut les racines, la tige, la rose. Les racines c'est la foi, qui supporte la tige de l'espérance, et l'espérance reliée aux racines de la foi va à ce moment pouvoir donner la rose. Et même les racines, attention, si vous mettez les racines comme ça, suspendues au-dessus du sol, elle va pousser votre rose? Non, il faut que la racine soit plantée dans un bon terreau. Ce terreau, c'est l'humilité. Donc il faut l'humilité qui va permettre l'éclosion des vertus théologales. Donc l'humilité va permettre aux racines de la foi de pousser, donner une tige de l'espérance, et l'espérance va donner la rose. On voit bien que tout est nécessaire. Sans la tige, pas de rose. Sans les racines, pas de tige et pas de rose. Il faut les racines pour avoir la tige et la rose. Et il faut le terreau pour planter. Pour planter les racines. S'il n'y a pas de terreau, la racine est directement sur le roc, rien ne pousse, pas de rose. Vous voyez, mes bien chers frères, Les pères aimaient utiliser ce genre d'images. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même utilisait des images tout le temps. Il parlait très souvent en parabole pour expliquer. Eh bien, la vertu de charité, c'est la rose, c'est le but. Le but, c'est l'éclosion de la rose, que tout le monde puisse venir admirer cette rose. Si je veux que mon cœur brille et soit beau, que mon âme soit belle comme une rose, il faut la tige de l'espérance et il faut la racine de la foi et il faut le terreau de l'humilité. Pour ça que l'orgueil empêche la grâce sanctifiante. L'orgueil empêche la charité d'arriver, tout simplement parce que l'orgueil dessèche le terreau. Le terreau va devenir dur comme la pierre. Et si le terreau est devenu dur comme la pierre, la racine ne peut plus prendre sa nourriture dans les oligo-éléments dont elle a besoin pour survivre, dans la terre, parce que la terre est devenue trop dure. Donc il faut bêcher la terre. Il faut pratiquer cette vertu d'humilité. Sans la vertu d'humilité, plus de foi, plus d'espérance, plus de charité, tout meurt. Un autre exemple que je vous ai souvent donné, c'est l'exemple plus moderne, mais qui explique bien ce que ça veut dire, de la petite flamme pilote sur une gazinière, toute petite flamme de quelques millimètres de long, petite flamme bleue, qui est là, on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que ça ne chauffe pas, ça n'éclaire pas, c'est tout petit. Et quand on branche le gaz, quand on tourne le gaz, à ce moment-là, le gaz va pouvoir s'enflammer, échauffer, éclairer. Eh bien, cette petite flamme représente la vertu d'espérance, mes bien chers frères. Ou l'autre exemple que je vous ai donné il y a quelques semaines, c'est qu'utilisent très souvent les pères, l'exemple aussi de la lampe à huile. Donc le réservoir en argile séchée, c'est la foi, le liquide qu'on place à l'intérieur de ce réservoir pour alimenter la mèche, c'est évidemment l'espérance. Et la flamme qui brûle, c'est la charité. Et la mèche qui unit l'espérance à la charité, formée de quatre torons, représente les quatre vertus cardinales. Prudence, justice, force et tempérance. Il y a une autre image qu'on peut prendre. On comprend les choses par des images. C'est l'image du phare. À l'entrée du port, il y a un phare qui indique au navire l'entrée pour passer et rentrer dans le port. Alors quand il fait beau temps, on n'a pas besoin du phare, parce qu'on voit très bien les choses. Mais quand c'est la nuit, quand il y a du brouillard, quand il y a la tempête, qu'est-ce que fait le pilote du bateau? Il cherche le phare. Et chaque phare a un éclat différent, chaque phare a une fréquence de luminosité, une intensité différente pour que le pilote puisse reconnaître qu'il est bien devant le bon phare. Le phare éclaire la route et indique la passe. Le pilote va pouvoir suivre la lumière indiquée par le phare pour entrer de façon avec précaution dans le port et être protégé dans les eaux calmes du port. Eh bien, chers frères, n'oublions pas que cette flamme, cette lumière du phare, non seulement elle éclaire les personnes qui arrivent, les bateaux qui arrivent éclairent aussi la personne en question. Notre âme devient phare, mes bien chers frères. Par la vertu d'espérance, jointe à la vertu de charité, notre âme devient phare, donne un rayon lumineux très fort, très puissant, pour éclairer deux personnes, pour éclairer vous-même et pour éclairer les gens que nous allons rencontrer. Il faut que notre âme devienne un phare. Et si j'ai le malheur de commettre une faute grave, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai le malheur de commettre une faute grave, le phare s'éteint. Du coup, je ne vois plus rien. Mais je ne suis pas le seul à devenir aveugle. Qui va devenir aveugle avec moi? Tous ceux qui étaient supposés être éclairés par la lumière du phare. Tous les bateaux qui attendent à l'entrée du port et qui cherchent le phare, il y a le brouillard, c'est la tempête, c'est l'ouragan, on ne peut pas rentrer sans phare, et la lumière s'est éteinte. Donc quand je commets un péché mortel, non seulement c'est un suicide pour ma propre âme, mais c'est aussi un suicide pour les âmes de ceux qui devaient utiliser, que le bon Dieu a mis autour de moi. Et le bon Dieu avait l'intention de m'utiliser comme un instrument pour aider ces âmes autour de moi à trouver la lumière du port. Vous voyez, mes bien chers frères, l'importance de toutes ces choses-là. Une autre image de l'espérance, pour vous aider à comprendre l'importance de la vertu d'espérance qui est connectée à cette grande fête de l'Ascension, qui est peut-être le plus bel exemple. Le plus bel exemple de l'espérance, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Notre Seigneur Jésus-Christ est monté dans la barque avec les disciples sur le lac de Génézareth, en Palestine, et la tempête se lève. Le vent souffle, se transforme en ouragan, la mer se creuse, là les vagues sont de plus en plus puissantes, passent par-dessus bord, commencent à remplir le navire. Alors évidemment, les apôtres vont paniquer. Et notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Alors au début, ils n'osent pas le réveiller, mais ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Pourquoi il dort? Il n'y a pas idée de dormir dans une tempête pareille. Et du coup, la barque se remplit d'eau. Ils ont l'impression qu'ils vont tous couler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils réveillent le bon Dieu. Seigneur, ne voyez-vous pas? Nous périssons. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur reprocher leur manque de foi. Homme de peu de foi. Alors les apôtres vont dire, mais Seigneur, vous ne voyez pas qu'on est en train de couler? Il y a l'eau qui passe par-dessus bord, on va couler. Homme de peu de foi. Alors il se lève. Il se met à l'avant du bateau, il donne des ordres, et le vent se calme, les vagues se calment. C'est ça, mes bien chers frères, la vertu d'espérance. Vérifions que dans la barque de notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ est là, même s'il dort. Et si notre Seigneur Jésus-Christ dort, je vous conseille de ne pas trop le réveiller. Je n'aime pas trop ça. Parce que quand on réveille notre Seigneur Jésus-Christ qui dort dans la barque de mon âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je manque d'espérance, justement. Je manque de confiance en Dieu. Il faut simplement vérifier qu'il est là. De temps en temps, vous ouvrez la porte qui mène à l'intérieur de votre âme, vous vérifiez. Est-ce qu'il est là, le bon Dieu? Oui. Il dort. Oui, mais il est là. Et on tourne dehors. Est-ce qu'il faut guider le bateau? Il y a le vent qui souffle, il y a l'ouragan qui arrive, il y a un tsunami qui se prépare, c'est la catastrophe. On a tendance à dire, mais je voudrais bien qu'il se réveille. On ouvre la porte, il dort. Oh. Il n'y a pas idée. Pourquoi dort-il? Pourquoi n'est-il pas réveillé pour venir m'aider? Est-ce qu'il est là dans la cale? Est-ce qu'il dort dans la cale? Oui, il est là, mais il dort. Est-ce qu'il est toujours Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu quand il dort? Oui. Il n'a pas idée de dormir avant la tempête. Il sait ce qu'il fait. Lui, c'est le grand matelot, c'est le grand chef. Il sait exactement ce qu'il fait. Laissez-le dormir. Mais vérifiez qu'il est dans la cale. Et si vous avez perdu l'état de grâce, alors là, c'est une autre paire de manches. Si vous avez perdu l'état de grâce, vous n'avez plus un état de grâce, alors à ce moment-là, la cale est vide. Alors là, vous pouvez paniquer. Là, vous devez paniquer. Et si la cale est vide, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, que vous ne paniquez pas, alors là, il y a une marque d'orgueil épouvantable. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas vous en tirer. Voyez, mes bien chers frères, l'importance de cette vertu d'espérance. Et là, je voudrais quand même dire un mot sur cette phrase. Dans l'évangile de Saint-Marc aujourd'hui, il y a cette phrase qui est peut-être une des plus importantes de l'évangile. Cette phrase qui est détestée par les modernistes. Les modernistes attrapent des boutons sur le bout du nez dès qu'ils lisent cette phrase. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Le baptême, c'est d'adon la charité. Donc celui qui croit par la foi, qui espère en Dieu et qui a la vertu de charité, l'état de grâce sera sauvé. Mais si on n'a pas l'état de grâce, il sera condamné. Ah, les modernes n'aiment pas cette phrase. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous explique par cette phrase qu'on est obligé de croire. On n'est pas libre de croire ou de ne pas croire. On est obligé de croire parce que si vous voulez aller au ciel, il faut croire. Et il faut rajouter à la foi l'espérance et la charité. Les gens modernes nous disent tous, mais on est libre. Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre de vivre ou de mourir? Non. Vous êtes libre d'avoir une âme ou de ne pas avoir une âme? Non. Vous êtes libre d'être jugé ou pas être jugé par Dieu le jour de votre mort? Non. On n'est pas libre, mes bien chers frères. Cette fausse liberté du monde moderne, c'est pas la liberté. Cette fausse liberté du monde moderne, c'est la licence. La vraie liberté, c'est quoi? La faculté de se mouvoir dans le bien. Le pouvoir de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous est imposée. Cette fin nous est imposée, c'est le ciel, mes bien chers frères. On est sur la terre pour aller au ciel. C'est pour ça qu'on est ici. Faut jamais oublier ça. Et ne jamais, 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 jamais se décourager. Sauf si notre Seigneur n'est pas dans la cale. Donc vérifiez de temps en temps, ouvrez la porte de votre âme, la fenêtre de votre âme, vérifiez ce qu'il est là. Et si je constate que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là parce que j'ai offensé gravement le bon Dieu par un péché grave, vite aller se confesser. Vite aller se confesser, retrouver l'amitié avec le bon Dieu, et à ce moment-là, on retrouve la paix, on retrouve l'espérance. Est-ce qu'on peut garder l'espérance en état de péché mortel? C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Parce qu'une espérance sans charité, c'est ce qu'on appelle une espérance informe. Distinction très importante de saint Thomas d'Aquin. Au contraire, dès que la charité revient, l'espérance devient une espérance formée. Vous pourrez comprendre, on prend une autre comparaison en philosophie, l'âme est la forme du corps. Un corps sans âme, c'est toujours un corps? Oui. C'est un corps informe. Où est-ce que sont les corps informes? Dans les cimetières. Parce que l'âme et le corps sont séparés. À la séparation entre le corps et l'âme, notre corps devient informe et c'est le cimetière. On se transforme en poussière. Notre âme, elle vit parce qu'elle est immortelle. Elle est immortelle. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Alors mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie encore une fois. N'oubliez pas que la très sainte Vierge Marie est justement celle qui va nous aider à prier. Quand elle apparaît, qu'est-ce qu'elle demande? La prière. Quand elle est apparue aux petits-enfants de Pontmain, par exemple, près de Laval, en janvier 1871, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais priez, mes enfants. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres au moment de la Passion? Veillez, priez, afin de ne pas entrer en tentation, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc la prière est nécessaire au salut, parce que la prière est nécessaire pour garder la vertu d'espérance. Sans espérance, impossible de prier, et sans prière, on se décourage, on abandonne la charité, on abandonne l'état de grâce. Encore une fois, mes bien chers frères, une fois qu'on comprend ces choses, on comprend tout. Saint Alphonse de Ligorie va jusqu'à dire, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Alors passons par la très sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous aider à ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Même quand, humainement parlant, tout s'écroule, et Dieu sait si c'est le cas actuellement autour de nous, même quand, humainement parlant, tout s'écroule, ne jamais oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le gouvernement peut détruire beaucoup de choses, peut pas détruire la divinité, c'est impossible. Dieu est intouchable parce qu'il est Dieu, justement. Et il est au ciel. Alors on a l'impression parfois qu'il nous a un peu abandonnés. Rappelez-vous l'histoire de la barque. Il dort. Il pourrait faire un grand miracle et écrabouiller tout le monde. Il aurait pu faire ça pendant la Passion, au début de la Passion. Quand Judas arrive pour le trahir avec la foule, une foule nombreuse, nous dit l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu, il est Dieu, il peut tout faire, envoyer une demi-douzaine de légions d'anges. D'ailleurs, il va le reprocher à Saint-Pierre. Laisse ton épée au fourreau. Ne crois-tu pas que Dieu le Père n'ait pas eu suffisamment de puissance pour envoyer une légion d'anges pour me protéger? Dieu aurait pu, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu faire ouvrir le sol et envoyer tout ce monde en enfer. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que s'il avait détruit tout le monde, il n'y aurait pas eu la rédemption, tout simplement. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ fût crucifié. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ fût écrabouillé entre les coups de la croix. Voilà pourquoi l'espérance est nécessaire. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, afin que nous ne décourageons jamais, que nous puissions un jour tous, avec la grâce du bon Dieu, nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.